Bienvenue dans notre émission Ondes du Vivre Ensemble, une émission réalisée dans le cadre du projet Ondes du Vivre Ensemble, cofinancé par le Fonds européen d'intégration. En ce mois de mai, nous parlons de la culture européenne. Tout de suite, vous allez écouter Florence Rau-Guantenay du Conseil régional d'Aquitaine qui travaille aux affaires européennes et internationales.
Alors, je vais vous parler de l'Union européenne en général, ce qu'elle représente, comment elle s'est construite. Je vous ferai deviner parfois un petit peu les éléments qu'on va trouver. Vous n'hésitez pas, et à la fin de la présentation, on pourra revenir sur des points précis, des questions que vous avez par rapport à ce grand ensemble qu'est l'Union européenne. Alors là, vous avez la carte de l'Union européenne. Elle est également sur ce document. Et vous l'aurez, je vais vous donner des documents à la fin, vous l'aurez à la fin de ce petit livre de recettes européennes qui est au milieu. Vous retrouverez cette carte qui a l'intérêt de vous montrer en fait comment s'est fait la construction européenne, puisqu'on va voir les pays qui étaient au départ de la construction européenne et ceux qui sont rentrés au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, l'Union européenne, c'est 27 pays. Tous les pays en couleur que vous voyez sur les deux cartes. Et c'est 500 millions d'habitants au total. En fait, tous les pays ne sont pas là depuis le début. La construction européenne, elle date de 1957. Les premiers pays qui ont fondé l'Union européenne, vous avez trois pays qui sont plutôt au sud, la France, l'Italie. Ce qu'on appelle le Benelux, la Belgique, qui est au nord de la France, les Pays-Bas, qui sont au nord de la Belgique, et le Luxembourg, qui est juste ici. À l'époque, avec ces pays verts, simplement, c'était beaucoup moins, évidemment. Donc France, Allemagne, Italie et Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. C'était les pays qui étaient au départ de l'Union européenne. Et ensuite, vous voyez avec les couleurs, en 1973, il y a d'autres pays qui sont rentrés, Royaume-Uni, enfin, vous voyez en vert clair, 1981, 1986, jusqu'à 2007, qui est le dernier élargissement de l'Union européenne, avec la Bulgarie et la Roumanie qui sont rentrés dans l'Union européenne. Cette année, il y a un 28e pays qui va rentrer dans l'Union européenne. C'est la Croatie. Donc la Croatie, au 1er juillet 2013, rentre dans l'Union européenne. Donc ça veut dire que cette carte, elle n'est plus valable à partir de fin juin. On aura une nouvelle carte avec 28 pays dans l'Union européenne. Et il y a d'autres pays qui sont candidats, qui veulent rentrer dans l'Union européenne. Donc actuellement, vous avez la Turquie. Donc il y a des négociations avec la Commission européenne, avec toutes les institutions européennes. La Turquie, l'Islande. Et puis le Monténégro, qui est juste à côté de la Croatie. Et ensuite, d'autres pays qui sont aussi candidats, mais qui sont moins avancés. La République de Macédoine, enfin d'autres petits pays qui vont aussi demander à rentrer dans l'Union européenne. Donc il y a 27 pays aujourd'hui, il y en aura 28 en juillet. Et puis dans les années qui viennent, il y en aura peut-être 29, 30, c'est une union. Pourquoi l'Union européenne a-t-elle été créée ? Un certain nombre de personnalités, notamment deux personnes, Robert Schuman et Jean Monnet, qui ont porté l'idée européenne. D'où ça vient, l'idée européenne ? La Seconde Guerre mondiale, vous savez que l'Europe a eu une Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Et l'idée était, après cette guerre, d'arriver à avoir la paix sur le continent européen. La paix, mais aussi la prospérité. L'idée de mieux vivre en Europe et d'avoir une solidarité entre les peuples. Donc c'est les premières idées, après 1945, après la guerre, qui ont amené à l'idée européenne. Et notamment Robert Schuman, qui est en bas à gauche, qui a fait une déclaration en 1950... assez importante, qu'on appelle la déclaration Schuman. Il a fait cette déclaration le 9 mai 1950. Et le 9 mai 1950, aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe partout en Europe. Alors cette Union européenne, elle a des symboles. D'abord le drapeau. Donc, on a l'impression que c'est les 12 pays qui étaient au départ de l'Union européenne. En fait, non. 12, c'est un chiffre symbolique qui signifie la plénitude et la paix, la prospérité. C'est un chiffre un peu mythique. Donc le drapeau aura toujours 12 étoiles. Ça ne correspond pas aux pays qui sont rentrés dans l'Union européenne. Ça, c'est pour le drapeau. Le deuxième symbole et unique, c'est l'hymne. Il y a un hymne européen. Donc l'hymne européen, c'est l'ode à la joie, qui est extrait d'une symphonie de Beethoven, qui est donc un musicien, j'ai dit allemand, mais il est autrichien en fait d'origine. J'ai toujours un doute. Il est autrichien, je crois, Beethoven. Et donc c'est un hymne sans parole, c'est uniquement de la musique. On le veut sans parole pour que tout le monde puisse le comprendre, c'est que de la musique. Donc les gens reconnaissent quand l'ode à la joie est jouée, c'est de la musique classique et ça représente l'Union européenne. Le troisième symbole, donc c'est la journée de l'Europe, donc ça je vous ai dit, la journée de l'Europe, elle est fêtée le 9 mai parce que ça commémore la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, donc ça a plus de 50 ans. Et le quatrième symbole, c'est une devise qui est un petit peu plus récente. La devise de l'Union européenne, c'est « Unis dans la diversité ». L'idée de l'Union européenne, c'est que tous ces peuples, tous les pays de l'Union européenne soient solidaires, mais qu'on respecte la culture de chaque pays, la langue de chaque pays, les manières de fonctionner de chaque pays. Donc ce n'est pas une fusion. Ce n'est pas 27 pays qui tout d'un coup deviennent un nouvel État ou une nouvelle structure. C'est la coopération entre tous ces pays. Et chaque pays accepte de transférer un petit peu de pouvoir à l'Union européenne. Donc il y a des choses maintenant qui, pour la France, pour l'Italie, pour la Roumanie, la Bulgarie, se décident au niveau européen et plus au niveau français. Voilà. C'est ça l'idée d'Europe. Avec trois, donc là vous voyez, à chaque fois, il y a 23 langues officielles dans l'Union européenne. Alors l'idée, ces 23 langues, c'est deux choses. C'est de respecter toutes les cultures et toutes les langues. Donc on n'a pas voulu éliminer de langues, toutes les langues. Ça veut dire que les documents sont traduits. Donc c'est une idée de diversité culturelle. On veut que la diversité culturelle reste. On ne veut pas imposer une langue à tout le monde. Et l'autre idée, c'est de faciliter les choses pour chaque pays. Parce que chaque pays, ils auront les documents officiels dans leur langue. Donc ça ira plus vite ensuite pour qu'ils traduisent les décisions dans leurs lois, dans leur manière de fonctionner. Donc toutes les langues, en fait, sont officielles. Quand on travaille à la Commission européenne, les fonctionnaires européens, ils parlent souvent 4 langues, 5 langues, 6 langues. Ensuite, il y a des traducteurs. Évidemment, il y a des traducteurs qui sont là dans toutes les langues. Donc, vous êtes originaire d'un pays et que vous êtes traducteur, vous pouvez aller travailler à l'Union européenne. Alors, il n'y en a que 23, puisqu'il y a des pays qui ont la même langue sur les 27. Donc là, comme je vous le disais, ça s'est construit petit à petit. En 1950, c'était le bloc de pays, donc France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni. En 1973, le Royaume-Uni et d'autres pays qui ont rejoint, 81. Donc, petit à petit, il y a des pays qui rentrent, qui ont des conditions. Pour rentrer, il y a 3 conditions. C'est des négociations qui peuvent durer plusieurs années. Il faut d'abord avoir une démocratie. Une démocratie, respecter les droits de l'homme, être dans un pays de liberté où on partage les valeurs de paix, de prospérité, de démocratie. Ça, c'est un critère qu'on dit politique pour rentrer. Le deuxième critère, c'est un critère économique. Il faut avoir une économie stable. Il faut être capable de fonctionner correctement. Et le troisième critère, c'est un critère d'organisation. C'est-à-dire que le pays doit être capable de traduire les lois européennes dans ses lois et d'être assez organisé pour pouvoir le faire. Donc il faut qu'il y ait une organisation interne qui soit correcte pour pouvoir traduire. Donc ça, c'est les 3 critères principaux. Les négociations peuvent durer des années. Par exemple, avec la Turquie, les négociations, elles ont été ouvertes en 2005. Donc ça fait déjà 8 ans qu'on discute avec la Turquie pour voir si un jour ils pourront rentrer dans l'Union européenne. Alors comment fonctionne l'Union européenne ? L'Union européenne, au tout début, c'était une union économique, en fait. Elle s'est construite sur l'économie. Et petit à petit, elle est devenue aussi une union politique. Donc les États se mettent ensemble. Donc en 1952, c'était la communauté urbaine, européenne du charbon et de l'acier. Donc c'était vraiment... Alors à l'époque, c'était le charbon et l'acier des développements. Aujourd'hui, ça serait différent. Et ensuite, le traité vraiment fondateur, c'est 1958, les traités de Rome. C'est vraiment les traités qui fondent l'Union européenne, qui à l'époque s'appelait la Communauté économique européenne, la CEE, avec la Communauté européenne de l'énergie atomique. Et ce nom a changé. Alors en 87, vous avez un marché unique. Donc maintenant, on a un marché unique pour l'ensemble des pays européens. Mmh. Et en 1993, le traité sur l'Union européenne. Donc elle a changé de nom en 1993. Elle s'appelait la Communauté économique européenne. Et en 1993, elle s'appelait l'Union européenne. Et puis ensuite, différents traités. Le traité qui est en cours actuellement, 2009, c'est le traité de Lisbonne. Qui a permis quelques changements institutionnels, qui a permis d'améliorer la manière de fonctionner. Parce que ce qui est compliqué dans l'Union européenne, c'est de fonctionner à 27 États. 27 États, sachant que c'est la majorité qualifiée qui décide, ça veut dire qu'un État peut bloquer l'ensemble des décisions. Un État peut dire « moi, je ne suis pas d'accord, donc je ne veux pas telle décision ». Alors, depuis les dernières années, on a amélioré sur certaines décisions. Maintenant, on a des possibilités et on réfléchit à des majorités avec un certain nombre de pays, un certain nombre d'habitants. On calcule un certain nombre de pays, un certain nombre d'habitants, parce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus gros que les autres. Donc il y a une proportion à faire. Mais c'est vrai que c'est quand même l'idée de décider ensemble. Donc c'est pas très... C'est un petit peu. C'est pour ça que certaines personnes disent qu'il ne faut pas trop élargir l'Union européenne. À 27 États, c'est déjà compliqué, c'est difficile. Et d'autres disent au contraire, il faut élargir parce que l'Union européenne, c'est la paix, c'est la prospérité. Et donc, il faut au contraire essayer de prendre davantage de pays dans cette Union européenne. Donc, il y a un débat. Tout le monde n'est pas d'accord sur le fait d'élargir plus davantage donc, cette Union européenne. Donc les traités font l'Union européenne et également la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc c'est une charte qui parle de liberté et de droits de l'homme. Il y a 54 articles donc, qui parlent de la dignité, de la liberté, l'égalité, la solidarité, la citoyenneté et la justice. C'est un texte donc très important pour... et les pays qui veulent rentrer dans l'Union européenne doivent respecter la charte des droits fondamentaux. Alors vous voyez que l'Union européenne, elle a un poids économique qui est un tout petit peu supérieur aux États-Unis et qui est supérieur à la Chine, au Japon. Et sur le deuxième graphique, par contre, c'est la richesse par habitant. Et là, on voit que les États-Unis passent largement devant. Donc le poids économique des États-Unis n'est pas plus fort que l'Europe, mais par contre, les gens sont plus riches, en moyenne, évidemment. C'est une moyenne... Sachant que l'Union européenne, elle ne travaille pas uniquement pour les 27 pays membres. Elle a ce qu'on appelle une politique de voisinage. Donc elle fait des coopérations avec des pays qui sont autour. Alors ça peut être dans les républiques de l'Est, hein, de l'Europe, mais ça peut être aussi le Maghreb, donc le nord de l'Afrique, enfin tous ces pays. Et donc elle aide aussi, il y a des coopérations avec ces pays-là. Et elle met aussi pas mal d'argent dans l'aide au développement. En tout cas, pas mal d'argent. En tout cas, beaucoup plus que les autres continents. En même temps, vous savez que sur l'aide au développement, dans les années 50-60, on avait un objectif que les pays consacrent 1% de leur richesse à aider les pays en voie de développement. En fait, 1%, les seuls pays qui arrivent, c'est les pays du nord de l'Europe, qui ont à peu près 1%. De leur PIB vers les pays en voie de développement. Mais par contre, si vous regardez les États-Unis, je crois qu'ils sont à 0,3% ou 0,4%. Et l'Europe, on est en moyenne à 0,7%, 0,8%. Ça veut dire qu'on a du mal à consacrer 1% de la richesse des pays développés à l'aide en voie de développement. Donc quand je dis que l'Union européenne aide beaucoup, c'est, voilà, il faut qu'on garde la proportion. C'est quand même faible au total. Mais en tout cas, c'est plus que les autres continents. L'Allemagne et la France, en fait, l'Allemagne a une démographie qui n'est pas très bonne. Donc ils sont à 1, et quelques enfants par femme, alors que la France a une démographie supérieure. Et donc on pense que dans 10 à 15 ans, la France va dépasser l'Allemagne en population, parce qu'il y a plus d'enfants qui naissent en France et parce que l'Allemagne a un gros souci à ce niveau-là. Donc les chiffres vont un petit peu changer dans les prochaines années. Alors là, c'est assez impressionnant pour le Luxembourg, qui est un pays européen. C'est la richesse par habitant, ce qu'on appelle le produit intérieur brut par habitant. Et là, on se retrouve avec le Luxembourg qui est plus de deux fois... les habitants sont plus de deux fois plus riches que le premier pays qui suit, qui sont les Pays-Bas. Et vous voyez que ça va jusqu'à la Bulgarie, la Roumanie et la Bulgarie, qui sont les pays les plus pauvres, entre guillemets, de l'Union européenne, avec des écarts quand même assez importants. Parce que vous avez 45 pour la Bulgarie, 131 pour les Pays-Bas. Donc les Pays-Bas sont plus de trois fois plus riches. Et le Luxembourg, alors là, c'est très particulier. C'est un tout petit pays, mais il y a vraiment une richesse qui est très différente des autres pays. Mais l'idée de l'Union européenne, c'est qu'on aide les pays les plus pauvres à augmenter, qu'on limite cet écart, en fait. Donc toutes les politiques de l'Union européenne, elles sont aussi faites pour que les pays... Il y ait une solidarité et pour que les pays... qui ont le plus de difficultés, arrivent à ce que l'écart s'accroît et soit un petit peu moins pauvre, et puis que les pays riches... c'est vraiment l'écart, quoi. On ne veut pas que les pays les plus riches deviennent encore plus riches et que les plus pauvres se débrouillent. C'est vraiment une idée de solidarité qui est dans l'Union européenne. Et donc, il y a une stratégie qui a été adoptée en 2010 pour une croissance. Alors, on dit une croissance intelligente. Une croissance intelligente, c'est parce qu'on travaille sur la recherche. On met beaucoup d'argent sur la recherche, sur l'innovation, sur les nouveaux métiers, sur l'écologie, sur des choses qui sont... une croissance durable, donc sur l'écologie. Une croissance inclusive, ça veut dire qu'il faut que la croissance, ça ne soit pas uniquement les entreprises qui marchent bien et qu'elle inclut tous les habitants, toutes les personnes. C'est-à-dire qu'il faut que la croissance, elle serve à tout le monde, que toutes les parties... puissent participer. C'est pas la croissance uniquement des entreprises et les habitants qui, eux, ont moins de difficultés. Et puis une bonne gouvernance économique, ça veut dire moins de corruption, plus de transparence, essayer d'avoir... Et donc les États se sont fixés des objectifs. En 2020, on veut qu'il y ait un emploi pour 75% de la population âgée de 20 à 64 ans. On veut qu'il y ait 3% de notre richesse qui soit consacrée à la recherche. On veut réduire au niveau écologique, ça c'est un des gros objectifs de l'Union européenne, on veut réduire les émissions des gaz à effet de serre, on veut utiliser des énergies renouvelables, on veut essayer de... Donc il y a des objectifs assez clairs, chiffrés, qui sont fixés pour 2020. C'est pas dit que tous les objectifs seront atteints. Ils ont fixé ces objectifs, mais c'est un petit peu difficile. Là vous voyez, c'est ce que l'Union européenne dépense en fait, donc... Il y a quand même une grosse partie sur l'agriculture et l'environnement, 40%. Alors l'emploi, évidemment, la croissance, tout le développement régional. Donc c'est vraiment les deux, l'emploi, la société. L'idée de l'Union européenne, c'est à la fois la paix et la prospérité. Donc c'est évidemment une solidarité entre les peuples et la paix, mais c'est aussi d'avoir une croissance économique qui profite à la population et qui soit... qui soit garante d'une certaine prospérité. Et donc l'Union européenne, elle donne aussi de l'argent dans les régions pour les projets qui sont locaux, des projets. Et elle veut le faire pour justement réduire les inégalités entre les pays. Donc elle aide beaucoup plus les pays qui sont comme la Roumanie, la Bulgarie, qui sont encore un petit peu en retard par rapport aux autres pays, que des pays comme la France ou l'Allemagne ou l'Italie. Donc il y a des pays qui mettent plus d'argent dans l'Union européenne qu'ils n'en récupèrent. C'est le principe. Donc les Royaumes-Unis, par exemple, mais aussi la France, l'Allemagne, mettent davantage d'argent qu'ils n'ont de bénéfices de l'Union européenne. Il y a des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, par contre, qui mettent moins d'argent, mais qui récupèrent plus d'argent pour essayer de réduire cet écart de richesse entre les pays. L'euro, donc, que vous utilisez tous les jours, mais qui est quand même assez récent, puisqu'il est là depuis 2002, donc ça fait un peu plus de 10 ans. C'était avant, on avait chacun notre monnaie, le franc pour la France, et puis d'autres monnaies. Alors, il n'est pas utilisé dans tous les pays de l'Union européenne, puisqu'il y a des pays qui ne sont pas dans la zone euro, comme par exemple le Royaume-Uni ou d'autres pays. L'idée de l'euro, c'est d'arriver à ce qu'il y ait moins d'inflation, moins d'augmentation de prix, à ce qu'on puisse plus facilement passer d'un pays à l'autre sans taux de change. Donc, c'est une idée économique. Et sur le marché unique. Il y a des objectifs, il y a aussi des pays qui veulent rentrer dans la zone euro. Mais vous savez qu'il y a eu un gros problème avec la Grèce, c'est qu'on s'est demandé à un moment donné si la Grèce n'allait pas sortir de la zone euro parce que c'était compliqué pour eux, parce qu'il y avait beaucoup de dettes, ils devaient beaucoup d'argent. Et c'était pas. Donc, sur l'euro aussi, il y a beaucoup de débats et de difficultés. Et Schengen, alors les accords de Schengen, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le fait d'abolir les frontières, donc plus de contrôle, mais les accords de Schengen ne sont pas signés par tous les pays de l'Union européenne. Alors il y a deux pays en dehors de l'Union européenne qui ont signé les accords de Schengen, c'est l'Islande, donc la petite île qui est au nord, et la Norvège. Donc ça, c'est deux pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, mais qui ont quand même signé les accords de Schengen. Le Royaume-Uni, la Roumanie, la Bulgarie et Chypre n'ont pas signé les accords de Schengen. Ça veut dire que pour vous rendre dans ces pays-là, souvent il y a besoin d'un visa ou il y a besoin de plusieurs choses. Mais dans les autres pays, vous pouvez circuler librement avec ces accords de Schengen. C'est la coopération entre les services de police des différents États membres. Donc ça veut dire concrètement qu'il n'y a plus de douane quand vous franchissez la frontière. Vous n'avez plus à montrer de passer tout droit, mais il reste des contrôles. Évidemment, il y a des contrôles réguliers qui sont faits dans le pays. Donc ça, c'est des exemples de réalisation de l'Union européenne. Donc, concrètement, ça se traduit comment? Donc, par exemple, vous avez des eaux de baignade plus propres. Il y a un gros travail sur la gestion de l'eau et sur la qualité des eaux. On essaye de travailler sur les problèmes de pollution, donc l'essence en plomb, des règles de sécurité sur l'alimentation. L'Europe a beaucoup introduit de règles de sécurité sur l'alimentation. Et puis sur les paquets, quand vous achetez des produits, vous pouvez savoir davantage ce qu'il y a dedans, si c'est bon pour la santé, s'il y a des choses à éviter. Tout l'étiquetage des produits, en fait, il y a beaucoup de législation là-dessus au niveau européen. Sur toutes les questions de santé en général, l'agriculture biologique qui se développe, hein, donc toujours pour une question de santé, et puis toute la recherche aussi, enfin, il y a pas mal d'exemples. J'ai d'autres exemples à côté sur l'éducation, la protection des consommateurs, ça c'est un gros aspect. La culture, les congés aussi, le congé parental, c'est-à-dire les congés quand on a un enfant pour les hommes, mais aussi pour les femmes, mais aussi pour les hommes. C'est quelque chose qui a beaucoup avancé et qui s'est étendu pour essayer de faire en sorte que les hommes s'impliquent aussi au niveau des naissances. La paix et la prospérité, ça c'est vraiment fondateur de l'Union européenne. Les gens le voient moins maintenant parce que la Seconde Guerre mondiale, elle est loin. Donc les anciens se souviennent de la Seconde Guerre mondiale, mais les jeunes comme nous, on a plus de difficultés à imaginer ce que pouvait être l'état d'esprit des gens dans les années 50, après une guerre qui a quand même été destructrice et ravageuse pour les hommes. Et là, c'est ce que fait l'Union européenne donc pour l'aide au développement. Donc, je vous disais que il y a une différence avec les autres continents. Dans l'Union européenne, en moyenne, chaque année, les habitants donnent 93 euros pour les pays en voie de développement. Hein. C'est une moyenne. Alors aux États-Unis, c'est 44 euros, et 53 euros, et au Japon, 44 euros. Donc l'aide de l'Union européenne est double par rapport aux autres pays riches, aux autres pays continents, comme les États-Unis. Alors, l'Union européenne, comment ça fonctionne? Vous avez trois grandes parties. La Commission européenne, qui est celle qui prend des initiatives et qui essaye de proposer en fait des choses à améliorer dans l'Union européenne. Ensuite, le Conseil européen et le Conseil des voix des États membres. Là, c'est les États qui sont représentés. Conseil européen et le Parlement européen. Là, c'est les députés européens. Alors, il y a des élections l'année prochaine. les députés européens. Donc vous pourrez... les ressortissants européens peuvent voter donc, pour élire leurs leur députés européens. Alors le Parlement européen, il représente les habitants, évidemment, et il a pris un petit peu plus de pouvoir ces dernières années. Donc on dit que c'est un petit peu plus démocratique qu'avant. Parce que le reproche qui est fait, c'est que la Commission européenne et les États décident un petit peu tout seuls sans que les populations soient associées. Alors comment ça marche? Il y a les citoyens qui peuvent demander des améliorations, les groupes d'intérêt, les experts. Et puis il y a la Commission européenne qui dit sur cet aspect-là, il faut qu'on améliore la protection des consommateurs dans ce domaine-là. Donc on va proposer quelque chose. Donc la Commission fait une proposition. Ensuite, le Parlement européen, donc avec les députés européens, mais également le Conseil des ministres. Donc le Conseil des ministres, il réunit tous les ministres des 27 États membres, les premiers ministres, ou le chef du gouvernement quand ce n'est pas un premier ministre, parce que tout le monde n'a pas le même système, qui vont décider ensemble. Donc le Parlement européen représente les habitants et le Conseil des ministres représente les États. Et donc c'est ensemble, la décision est conjointe. Alors il y a des allers-retours de décision pour décider. Ça, c'est un peu nouveau parce que le Parlement européen n'avait pas la décision conjointe il y a quelques années. Et donc l'idée, c'est qu'il soit mieux représenté. Ensuite, vous avez, une fois que la législation européenne est votée, adoptée, il faut que les États la traduisent dans leur législation. Et il y a beaucoup de législation... Enfin, voilà, ça demande parfois un petit temps, mais en tout cas, la législation européenne doit être traduite pour être appliquée dans chaque État membre. Et ensuite, quand il y a des problèmes, on peut aller devant la Cour de justice des communautés européennes, dire que écoutez, cette législation européenne, elle est mal appliquée dans mon pays, et donc moi j'ai été victime de ça, etc. Donc c'est la Cour de justice des communautés européennes pour corriger les mauvaises applications de la loi européenne. Donc de temps en temps, il y a un grand sommet où tous les chefs d'État se réunissent pour parler de tous les gros dossiers de l'Union européenne, tous les gros projets de loi. 4 sommets par an à peu près. Et depuis 2009, donc le traité de Lisbonne, on a un président du Conseil européen. Auparavant, il n'y en avait pas. Il y avait un Conseil européen avec les 27 États. Et maintenant, il y a quelqu'un qui est nommé président. Il s'appelle Herman Van Rompuy. Et il y a également une représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Ça, c'est aussi une nouveauté en 2009. Auparavant, personne ne représentait l'Union européenne. Et donc, on reprochait à l'Union européenne de... On ne savait pas qui dirigeait, qui pouvait, à qui on s'adresse quand on parle à l'Union européenne. Donc maintenant, il y a un représentant, un président du Conseil européen et une représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Donc, sur la Commission européenne, elle propose donc les législations et elle vérifie que les traités sont bien appliqués aussi. Et elle représente aussi l'Union européenne dans le monde. Et la Cour de justice, donc on peut aller... Si le droit de l'Union européenne est mal appliqué, on peut aller à la Cour de justice des communautés européennes. Et une banque centrale européenne qui est garante de l'euro, en fait, et qui essaye de faire en sorte que les prix n'augmentent pas trop, donc qui, sur l'inflation, essaye de trouver des solutions. Et par rapport aux décisions, donc ça c'est vraiment le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen, c'est vraiment les trois organes décisionnaires de l'Union européenne. Et il y a aussi des organes dont on peut demander l'avis en fait. Alors eux, ils ne décident pas, mais on peut demander leur avis. C'est le Conseil économique et social européen qui représente la société civile, et puis le Comité des régions qui représente les pouvoirs locaux. Donc toutes les collectivités locales, les mairies, les départements, les régions, et qui peuvent donner leur avis sur les politiques. Mais c'est uniquement un avis. Ils n'ont aucune décision, aucun poids dans le processus décisionnel. Voilà. Et donc ce que l'Union européenne essaie de promouvoir, c'est la transparence dans les politiques qu'elle mène, la transparence dans le budget qu'elle vote. Et donc il y a un site web de l'Union européenne qui vraiment explique l'ensemble des politiques et tout ce qu'on peut trouver sur l'Union européenne. Et moi j'ai rajouté un site que je trouve très bien fait et qui est plus facile d'accès, c'est le site touteleurope.eu. C'est le site d'information de la France sur les questions européennes. Et c'est un site qui est très... qui explique à la fois l'histoire de l'Europe, la construction européenne, et puis tous les sujets d'actualité sur l'Union européenne. Et ensuite, il y a des centres de contact Europe Direct. Alors, à Bordeaux, c'est le CIJA, en fait, le Centre d'information jeunesse Aquitaine, qui a toutes les informations sur... les relais Europe Direct. Le centre de contact, c'est un centre européen, donc on peut le contacter. Mais les relais Europe Direct, donc il y a 400 centres d'information dans toute l'Union européenne. À Bordeaux, c'est le Centre d'information jeunesse Aquitaine. Et puis ensuite, on peut consulter, demander à l'Union européenne tous les documents sur les documents officiels. Et il y a un médiateur européen qui s'appelle Nikoforos Diamandouros, qui doit être grec d'origine, et qui, quand il y a une plainte par rapport à l'administration en Europe, les gens peuvent solliciter, saisir le médiateur européen qui peut amener à... un élément là-dessus.
Et nous poursuivons l'émission avec cette question. Que fait le Conseil régional d'Aquitaine en matière d'affaires européennes ?
Alors, on a trois parties. On a... des coopérations avec des pays en Europe. On a une coopération avec une région allemande. On a une coopération avec une région italienne, avec une région roumaine, une région polonaise et une région italienne, je l'ai dit. Donc ça, c'est des coopérations entre régions. Et on essaye de travailler, par exemple, avec l'Allemagne. On travaille sur le changement climatique, l'impact du changement climatique sur le vin. Puisque c'est une région qui a des domaines viticoles, comme la région Aquitaine. Et on sait que le changement climatique va modifier certaines vinifications, certaines qualités de vin. Donc on travaille sur cette question de recherche. Les échanges, c'est aussi des échanges pour faciliter la mobilité entre des jeunes Aquitains, des jeunes Essois en Allemagne ou des jeunes d'Émilie-Romagne en Italie. On peut avoir plusieurs sujets. Ça, c'est le premier point. C'est les coopérations avec des pays, avec des régions ailleurs en Europe. La deuxième chose, c'est qu'on a un bureau à Bruxelles. Ça s'appelle le bureau Aquitaine Europe. Et le bureau à Bruxelles, il donne des informations à tous les Aquitains qui veulent savoir comment fonctionne l'Union européenne, comment fonctionnent les lois au niveau européen et quels sont les programmes qui existent et comment ils peuvent obtenir des financements de l'Union européenne. Donc le bureau Aquitaine Europe, il est là pour informer tous les acteurs socio-économiques de notre région pour savoir comment ils peuvent obtenir des financements de l'Europe. Donc lui, il est basé à Bruxelles, c'est un service du Conseil régional, mais c'est le seul service qui n'est pas à Bordeaux. Il y a 5 personnes qui sont basées à Bruxelles. Et le troisième point, la région Aquitaine, comme toutes les autres régions, attribue les fonds européens qui sont destinés au développement régional. Donc je vous ai dit que l'Europe, en fait, elle a des grands programmes sur la recherche, sur l'écologie, le développement durable, sur économique, évidemment, sociaux également. Et elle a aussi la politique de cohésion qui va dans les régions et qui va aider les projets locaux. Et donc pour les projets locaux, c'est la région Aquitaine et la préfecture, donc l'État français qui est en région, qui attribue les fonds européens aux projets locaux. Donc elle distribue, entre guillemets, l'argent européen aux projets locaux. Avant, c'est l'État qui décidait et la région qui aidait l'État. Et à partir de cette année, ça va être la région qui va attribuer les fonds européens et l'État qui complétera. Donc depuis entre 2007 et 2013, il y a eu quand même 19 000 projets aidés par l'Europe en Aquitaine. Alors, quand je dis 19 000 projets, ça peut être des gros projets de recherche, mais ça peut être un petit projet. Par exemple, en Dordogne, il y a une chocolaterie, donc producteur de chocolat, qui fait du chocolat, qui a trouvé une petite innovation pour son chocolat. Il a été aidé pour mettre en place cette innovation, pour créer de l'emploi. Il y a une crèche donc pour des enfants qui a été aidée parce que dans cette crèche, il y a des personnes qui sont en insertion et qui ont pu travailler dans cette crèche. Il y a toute une politique sociale autour de cette crèche. Donc elle a obtenu des fonds européens. Donc ça peut être des entreprises, ça peut être des petites structures, des petits projets, mais aussi des gros projets. Donc 19 000 projets, ça va de projets de quelques milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros à des projets de millions d'euros. Donc c'est très variable dans le projet. Et donc cette programmation, c'est 2007-2013. Donc il y avait une enveloppe pour cette partie-là. Et on va avoir une nouvelle enveloppe pour 2014-2020. Donc ça se fait sur 6 ou 7 ans.
Merci d'avoir écouté cette émission sur Odo Radio, une émission réalisée dans le cadre du projet Onde du Vivre Ensemble, cofinancé par le Fonds européen d'intégration. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur notre site internet www.odoradio.net, onglet FEI.